Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Aujourd'hui, mon invitée a écrit de nombreux romans. Elle est journaliste, réalisatrice. J'ai à côté de moi la chance et le privilège de recevoir Natacha Calestrémé.
Bonjour, Natacha. Bonjour Daniel, c'est moi qui suis très honorée d'être là.
Alors, votre parcours est très intéressant. Vous avez une carrière de journaliste, précédemment réalisatrice de films documentaires essentiellement sur l'environnement. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut définir votre tracé entre le journalisme environnemental et l'écriture de romans thérapeutiques ?
Alors, au départ, c'est vraiment la nature mon moteur. J'ai 9 ans quand mon père m'annonce que le dernier rhinocéros noir est mort, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs à l'époque. Mais j'ai un effondrement, je me dis comment est-ce possible, le troisième plus gros mammifère du monde qui disparaît, c'est pas possible. Et là j'ai une prise de conscience phénoménale et je me dis je veux œuvrer pour la nature, pour l'environnement. Mais j'ai le sentiment que par le biais d'une association ça va me prendre beaucoup de temps, j'y connais rien, je suis toute petite. Et comme je suis passionnée par les médias déjà à cet âge, je me dis que peut-être un jour... les choses pourront se mélanger et avec les années passant, je vais faire des études sur la publicité et la communication et à ce moment-là va naître l'idée de créer une collection qui s'intitulerait « Les héros de la nature » et qui présenterait les actions des personnes qui, elles, donnent leur vie pour sauver une espèce animale en danger. Et cette collection va être diffusée sur France 3 et France 5. Et je vais avoir la chance de filmer les guépards, les crocodiles, les chauves-souris, les baleines, les éléphants, les hippopotames. Et c'est au cours de ces réalisations, en fait, de ces rencontres avec l'univers sauvage, que mon intuition va se développer. Et grâce à cette intuition... Mon métier de journalisme va changer puisque je vais être à même de proposer des sujets avec un petit peu d'avance en fait sur les autres en fait à chaque fois. Je tombe sur un article scientifique du professeur Katz, un Allemand, qui explique qu'à partir d'une bactérie qui serait passée d'un plant OGM à l'abdomen d'une abeille, eh bien, il y aurait la qualité OGM du plant qui se serait transmis en fait à l'abeille, ce qui normalement met une centaine d'années à l'échelle normale, et là en simplement quelques mois par le biais d'une bactérie, ça s'était transmis du monde végétal au monde animal, ce qui est extrêmement rare. Et là instantanément j'ai comme une intuition en me disant mais finalement ça pourrait annoncer une mortalité d'abeille. Et je me mets à imaginer une mortalité d'abeilles et je prends contact avec des chercheurs du monde entier, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en CNRS en France, l'INRA en France, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe autour des abeilles et pouvoir imaginer et écrire un roman futuriste autour des abeilles. Et 11 mois plus tard va arriver, en 2007, la première hécatombe en fait d'abeilles dans le monde, et je vais être donc la première à pouvoir proposer un film qui s'intitulera Mortalité des abeilles, la fin d'un mystère, toujours sur France Télévisions, et qui va nourrir du coup non pas un livre futuriste mais un polar qui s'intitulera ensuite Le Testament des abeilles. Voilà, c'est vraiment un concours de circonstances. Et puis il y a aussi une chose, c'est que France Télévisions à un certain moment donné a décidé d'acheter en fait ces programmes et de ne plus les produire, ça a coûté trop d'argent, et donc je me suis dit si je reste sur l'animalier c'est terminé. J'ai plus de boulot, donc c'est comme ça que je me suis dit, je vais aller du côté scientifique, du côté santé, parce que là, ça va m'ouvrir des champs, et c'est comme ça que j'ai fait donc deux films sur le réchauffement climatique, un film sur l'autisme, et puis après j'ai commencé à écrire sur les perturbateurs endocriniens, sur dans Nouvelles Clés, et dans bien d'autres magazines.
Il est vrai que déjà ce travail de documentation en amont pour les reportages permet de creuser et d'avoir du matériel immédiat pour les romans, pour écrire. Vous parliez tout à l'heure d'intuition, de ressenti au préalable. Est-ce que quelque part il n'y aurait pas une petite énergie supplémentaire qui vous aurait un petit peu tapé du pied en vous disant...
Ah mais complètement. Enfin moi j'ai le sentiment en fait que... À partir du moment où on commence à écouter notre intuition, on se met en reliance, on va dire, avec l'univers, tout simplement, avec l'univers. Quand je réalise le film Autisme, l'espoir, qui s'est ensuite traduit par un livre, le voile des apparences, eh bien, c'est 6 mois avant que ça devienne grande cause nationale. Ensuite, j'écris les blessures du silence autour du harcèlement et je remets mon manuscrit à mon éditeur en juin 2017 et en septembre 2018 sort l'affaire Weinstein. Donc voilà, ce sont des choses comme ça. D'ailleurs, je m'en étais pas rendu compte, c'est mon producteur qui m'a dit « Mais Natacha, c'est bizarre, chaque fois que tu traites un sujet, ça devient quelque chose d'important derrière. » Bon voilà, donc c'est lui qui m'a fait réaliser un peu cette intuition. Et c'est vrai que j'ai toujours à cœur de me renseigner, de m'ultra-documenter. Quand j'ai réalisé un film sur les chauves-souris, j'ai ensuite été sollicitée au Muséum d'Histoire Naturelle. Il y avait tout un tas de chercheurs, parce que comme j'avais été voir des chercheurs partout dans le monde, et c'est pas que j'avais plus d'informations qu'eux, loin de là, je n'ai pas cette prétention-là, mais par contre j'avais le discours que tenaient les autres chercheurs dans les autres pays. Et donc j'ai pu pouvoir partager, on va dire, ce qui se disait ailleurs qu'en France. Donc j'ai eu de grands bons moments comme ça avec des personnes où on partageait des informations.
Quelque part, vous étiez le lien entre ces deux univers, peut-être ?
Peut-être que j'avais tout simplement le budget et qu'ils ne l'avaient pas, parce que je pense qu'ils étaient très désireux de partir à l'étranger, mais qu'ils n'avaient pas ce budget-là. Je pense que c'était tout simplement que ça.
Donc vous avez cité notamment les romans que vous avez déjà proposés. Et au fur et à mesure, ce roman s'est un petit peu peaufiné. Et là, il y a quelques années, maintenant, 2020, vous sortez Les clés de l'énergie, 22 protocoles.
Voilà. Alors ça, l'histoire, elle est au départ très douloureuse, mais c'est ce qui peut donner de l'espoir à tous nos auditeurs. C'est-à-dire que dans chaque épreuve se cache un joli cadeau. J'ai eu de très grosses épreuves. En 2011, on me refuse tous mes manuscrits. On me refuse tous les projets de films. Je me retrouve au chômage. Je vis très très mal. C'est vraiment la honte absolue. Ça m'est jamais arrivé. Et puis sans un sou, donc là pareil, je le vis très mal. Ensuite j'ai ma petite sœur qui décède, ma meilleure amie des suites de harcèlement conjugal. Et puis même sur le plan familial, il se passe des choses assez compliquées, donc je pleure tous les jours. Et au bout de 4 ans, en 2015, j'ai une double hernie discale. Et il me faut cette alerte en fait dans le corps pour réaliser à quel point je vais mal. Je suis au bout du rouleau, je suis épuisée, je vais pas bien du tout. Sauf que j'ai comme 2 œillères sur la tête, sur les yeux, et je me rends pas compte, en fait. Et donc, il me faut finalement cet arrêt du corps, ce problème, cette maladie, pour réaliser à quel point je vais mal. Donc, je vais voir un médecin, puisque c'est la première des choses à faire, pour 3 raisons. Il faut aller voir son médecin. La première chose, c'est que quand on souffre, on peut rien faire. Et je pouvais rien faire, mais rien. Et pas une position où je me sentais bien, où je n'avais pas mal. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que il faut éradiquer, en fait, l'élément pathogène. Bon, dans le cas d'une double hernie discale, la douleur, mais si c'est une angine, il faut prendre des antibiotiques, etc. Il faut, prendre un médicament pour éviter la prolifération des éléments pathogènes. Le dernier point, c'est aussi pour rassurer le mental, parce que si on ne travaille que sur le plan énergétique, que sur le plan, il y a une partie de notre mental qui va se dire « ça ne peut pas marcher pour moi ». Donc, il faut se rassurer ce mental. Alors, souvent, les personnes me disent « oui, mais si on va voir un médecin et qu'on a plus mal, pourquoi chercher une question ou quelque chose ailleurs ?» Tout simplement pour éviter que ça revienne.
C'est la notion de complémentarité.
Absolument.
Arriver à unifier cette dimension corps, esprit ou âme, chacun va l'interpréter comme il entend. Et en effet, pouvoir résoudre un symptôme immédiat par le biais d'une médecine bien présente va permettre d'apaiser aussi un travail sur le mental, sur l'esprit, sur la conscience différemment.
Complètement, mais avant tout, ne peux-tu souffrir? Moi, j'ai eu une personne là récemment qui me dit « Oh là là, j'ai une double hernie discale, je sais que tu t'en es sortie, et qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir ?» Et première chose, je lui dis « Est-ce que tu es allé voir un médecin ?» Non. Je lui dis « Eh ben alors ?» Je lui dis « Si tu souffres, tes muscles sont sans arrêt, comment dire, tétanisés par la douleur. Comment veux-tu travailler sur le plan émotionnel des choses si tu souffres? Donc, va voir un médecin et on en reparle. Et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà. Et donc, du coup, moi, je suis allée voir le médecin, je suis allée voir des psys, c'était important. La chance que j'ai eue, finalement, c'est que la douleur s'est atténuée, mais pas complètement. Je dis la chance, parce que si j'avais eu une absence totale de douleur, je me serais arrêtée là. Bien sûr, pourquoi aller chercher midi à 14h? Moi, on est tous pareils, on est humains. Si on a, enfin, moi, j'ai pas envie de bosser pour rien, ça m'intéresse pas. Donc, là, j'avais encore des douleurs, et je me suis dit, là, il y a quelque chose à comprendre. Je savais qu'il s'était passé quelque chose juste avant ce problème, et je me suis dit, la médecine chinoise prétend depuis 4000 ans que il y a un point de vue émotionnel, mais pas simplement la médecine chinoise. Les psychothérapeutes, les psychanalystes, les psychologues, on sait que l'impact, en fait, voilà, psychosomatique, une émotion, et même la médecine de pointe, en fait, la psychoneuro-immunologie, explique que le moindre stress crée une chute de notre immunité qui nous rend sensibles aux microbes, virus et bactéries qui nous entourent.
Sans compter que nous avons des stress inconscients, des stress quotidiens sur lesquels on ne va pas forcément prêter attention.
Absolument.
Et c'est là aussi où c'est important de pouvoir s'arrêter quelques instants quand on est sur ce genre de travail. Ces stress que l'on ne voit pas, que l'on va minimiser parce qu'ils paraissent sans importance.
Bien
et
sûr.
Qui pourtant, mis bout à bout, peuvent accentuer et appuyer là où ça fait mal, souvent même si on a déjà effectué un gros travail en profondeur.
Bien sûr. Et c'est là où un thérapeute peut intervenir. Un thérapeute quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'il peut vous dire, est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Que ça revient tout le temps, tous les mois, vous avez ça? Parce qu'on disait, pourquoi finalement faire un travail sur le plan émotionnel? Ben, tout simplement pour éviter que ça revienne. Parce que les médecins de famille constatent tous avec beaucoup d'impuissance qu'ils voient les gens pour souvent les mêmes affections. Et dire, ah ben j'avais mal au coude, et puis ben, c'est parti, c'est venu à l'autre coude, ou c'est revenu au bout de 6 mois, ah puis j'avais tellement chat, oh, docteur, j'ai encore mes migraines. Ben, vous avez vos migraines depuis 30 ans, et oui, et ben, elles ne s'en vont pas. Et docteur, je suis constipée, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est très dur, ben, parce qu'on a envie d'aller bien, on a envie de se sentir bien. Moi, je ne suis pas médecin, hein, je suis journaliste. J'ai juste partagé dans la clé de votre énergie des rituel chamanique, puisqu'en fait, à travers mes interviews, et c'était une interview pour le magazine Géo, où je suis allée au Pérou, auprès de chamans, faire une initiation chamanique, voilà, et dans le monde entier pour en interviewer d'autres, j'ai ramené des rituels chamaniques, des rituels énergétiques, qui me semblaient un peu bizarres, un peu curieux, me disant qu'il faut être un peu naïf pour imaginer que ça peut marcher. Mais quand je m'en suis retrouvée avec finalement zéro autre possibilité, que j'étais perdue, je me suis dit, mais bon, j'ai plus que ça. Et bien alors que j'y croyais pas, et c'est ça qui est important. Si les personnes nous disent, j'y crois pas, mais moi, j'y croyais pas non plus. Et bien ça a marché, voilà, pour moi. Et donc, même quand ça a marché, mon mari me dit, partage ça dans un livre. Et là, je lui dis, écoute, moi, je me sens pas légitime. Sur ma simple expérience, c'est pas possible, c'est de la chance. Et étrangement, j'ai des proches qui vont me solliciter, des gens que je connais, des gens que je connais pas, des amis d'amis, des voisins d'amis. Et je vais partager avec eux ces rituels, et ça va marcher aussi pour eux. Et du coup, là, je me dis, il y a quelque chose, et je vais donc proposer des ateliers de 2016 à 2019, beaucoup, beaucoup d'ateliers. Ma grande surprise, c'est que tout d'un coup, j'ai des médecins, j'ai des psychiatres, j'ai des psychologues, j'ai des infirmiers qui viennent se former parce qu'ils en ont entendu parler par leurs patients, par leurs voisins. Et là, je me dis, bon, bah, là, il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que j'ai écrit La clé de votre énergie. C'est que j'ai voulu absolument tout donner. J'ai des thérapeutes qui m'ont dit, bon, tu t'es gardé des petites choses pour toi, pour pouvoir vendre tes ateliers ultra chers derrière, et puis tu distilles un ou deux trucs simplement dans ton livre et tout. Je dis, ben non, je donne tout, moi j'ai envie que les gens soient autonomes.
c'est un peu l'objectif du thérapeute. C'est-à-dire que l'autonomisation d'une personne, d'un accompagné, le terme malade finalement n'a pas lieu d'être. À partir du moment où on est suivi par un accompagnant thérapeute, c'est l'objectif, c'est l'autonomisation, c'est aller mieux par moi-même.
Exactement.
Mais par contre, on a besoin aussi de ces outils, de ces clés qui sont transmis, quel que soit le praticien. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure que vous n'y croyez pas et que pourtant, il y a quand même eu un effet. On le voit notamment avec l'EFT. L'EFT, qui aujourd'hui est grandement reconnu dans les pratiques et même l'une des thérapies holistiques, j'irais dire, les plus identifiées et les plus concrètes dans l'efficacité. Nécessite pas forcément d'y croire.
Bien sûr.
Le principe d'un tapotement sur un point prédéterminé, on le voit aussi, ce sont des points d'acupuncture, ce ne sont pas des points anodins non plus. On a ce rappel de médecine chinoise, de médecine ancestrale, vous disiez tout à l'heure, il y a plus de 4000 ans derrière quand même.
C'est ça.
Nous, avec nos approches qui ont quelques siècles, voire un peu moins, on est petit.
Bien sûr.
Et c'est vraiment là, nous n'avons pas besoin de croire en quelque chose pour que ça soit vrai, on n'a pas besoin de le voir pour que ça existe.
Ce qui est important, c'est l'intention que l'on met à vouloir sortir d'une situation. Voilà. Si on attend que ce soit les autres qui le fassent pour nous, il ne va peut-être pas se passer grand-chose. Par contre, si on devient, c'est exactement ce que vous disiez, l'autonomie, eh bien là, l'intention peut tout changer. Mais ce n'est pas que l'intention. Voilà, on l'a dit, on va voir son médecin et ensuite on travaille avec des thérapeutes, quels qu'ils soient. On peut se faire aider. Parfois, ce n'est pas évident de voir le lien entre ce que l'on a et même sans parler de la maladie, d'une épreuve, et comment en venir à bout. Voilà. Et ça, un thérapeute, notamment en EFT, c'est particulièrement efficace.
Tout à fait. On est sur ce rapport. L'avantage de l'EFT, c'est qu'on a un rapport immédiat entre l'inconscient et le corps. On met directement les deux en lien et c'est ça qui va permettre un travail beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Même si toutes les thérapies ont leur qualité et ont leur avantage, bien sûr.
Complètement.
Vous parliez de techniques chamaniques, de protocoles chamaniques, mais pas que finalement, parce que c'est ancestral, c'est commun à toutes les cultures. On peut retrouver des bases d'Oponopono dans
bien
ce que
sûr,
vous proposez
bien
aussi.
Oui, ouais, complètement. Et puis, bon, vous voyez, je suis allée au Cambodge. Le reset énergétique et le protocole 5 et 6 dans mes livres, qui est ce qu'on peut appeler un recouvrement d'âme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on perd de l'énergie, où on vit une épreuve, on perd de l'énergie, eh bien, au Cambodge, ça s'appelle le rappel d'âme. Chacun y met un terme. Ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, les gens sont en recherche, peu importe de ce que l'on leur propose, mais de quelque chose qui marche. Et je dirais que ce qui a fait le succès de mes livres, c'est juste qu'effectivement, le bouche-à-oreille. Parce que quand une personne, finalement, va mieux, elle en parle autour d'elle. Donc, c'est juste ça. Et mon éditeur, au départ, l'éditeur y croit, mais en tout cas, les libraires n'y croient pas, que la mise en place chez les libraires, elle est de 2800 exemplaires. C'est rien.
Oui, c'est un
2800 exemplaires,
c'est un tout petit stock.
C'est rien pour tout l'ensemble de la France. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment différent, c'est un best-seller. Donc, c'est juste le bouche à oreille qui a fait la différence. Donc, je dirais que, après, on n'a pas besoin de savoir comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche. Je suis incapable de dire comment ça marche. Mais ce qui est important, ce sont les résultats. Et il y a bien des thérapies où on a compris après comment ça marchait, prouvé que ça marchait, mais il faut parfois laisser un peu de temps aux choses pour qu'on comprenne comment ça marche. Mais moi, je n'ai pas la prétention d'expliquer comment ça marche. Mais pourtant, ça existe.
On parle d'énergie, mais on parle aussi de trouver sa place.
Oui.
Parce qu'une fois qu'on est dans l'énergie, bien sûr, qu'on arrive à avoir ces clés de bonne santé ou de mieux-être, il y a aussi ce qui revient, c'est trouver sa place. Et vous en avez fait aussi un best-seller également. 22 protocoles aussi.
Voilà, tout à fait. Pour trouver le bonheur, en fait, si vous voulez, c'est que je me suis rendu compte... J'avais pas prévu du tout l'écrire, ce livre. Mais au moment où la clé de votre énergie sort, je me rends compte que certaines personnes sont perdues pour faire le lien entre leurs épreuves Et notamment, puisque ma démarche repose beaucoup sur les épreuves de nos parents, de nos grands-parents, de notre famille, qui pèsent inconsciemment sur notre vie et qui nous mettent un peu sous une cloche. Et à partir du moment où on commence à regarder, eh bien, j'ai plein de personnes qui me disent « Ah mais oui, moi j'ai problème de cœur, tiens, mais ma mère n'était pas heureuse en amour. Ah mais oui, j'ai problème au travail, tiens, mon père a dû reprendre l'entreprise familiale, il était obligé. Ah mais oui, j'ai des problèmes pour être reconnue dans mon travail à ma juste valeur. Et dans ma famille, il y a des personnes qui n'ont pas été reconnues, qui étaient des enfants illégitimes. » Voilà. Mais ça, ces liens-là, qui s'expliquent sur le plan psychologique avec ce que les psys appellent la mémoire transgénérationnelle, eh bien, c'est pas facile. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur d'écrire « Trouver ma place ». C'est pour pouvoir, selon les situations, proposer des liens entre nos épreuves et celles de notre famille pour pouvoir nous en libérer. Et c'est ce que vous disiez était très juste, c'est-à-dire que quand on va bien, enfin, en interrogeant les gens, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui disaient « Moi, ça va, la santé, ça va, le couple, ça va, bon, la famille, oui, ça va, le boulot, ça va, bon. » Mais au fond d'eux, il y avait comme quelque chose de l'ordre de la frustration, il y avait quelque chose de l'ordre de « je ne brille pas » ou « tout mon potentiel n'est pas exploité à sa juste valeur. »
Le côté « il me manque quelque chose ».
Il me manque quelque chose pour me sentir complètement heureux. Il y a quelque chose, tout va bien, mais mes enfants ne m'écoutent pas. Tout va bien, mais mon mari ne me considère pas. Tout va bien, mais dans mon boulot, franchement, ils sont pas cool. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai même des stars, des personnes que j'ai rencontrées qui avaient tout sur le plan financier, en tout cas sur le papier, couple extra, travail fabuleux, mais à partir du moment où je grattais un petit peu, qui me disaient « Mais moi, j'ai jamais été reconnue par mon père, qui m'a toujours considérée comme un minable, et ça passera jamais. » Bon. Donc, il y a cette histoire de place, en fait, qui est souvent liée à une question de place, la place qu'on avait dans notre enfance. Comment notre père nous a regardés, comment notre mère nous a regardés, comment ils nous ont traités mutuellement, comment ils nous ont traités entre eux. Est-ce qu'on avait des frères et sœurs? Est-ce qu'on était le préféré? Est-ce qu'on n'était pas le préféré? Quelle place on avait dans la famille? Est-ce que si ma mère se plaignait beaucoup et, me disait « Ah, si tu savais ce que ton père me faisait », elle n'était pas en train, finalement, de me sortir de ma place d'enfant et de me mettre dans une place de confidente, qui n'était pas mon rôle. Est-ce que mon père, ce sont des exemples tout ça, est-ce que mon père qui, par exemple, me disait « va dire ça à ta mère », etc., ne m'instrumentalisait pas et me sortait de ma place d'enfant en me plaçant dans une position de go-between qui n'était pas ma place, etc., etc. Imaginons que un cousin, qu'un grand-père, qu'un voisin nous ait fait vivre quelque chose d'atroce, une violence physique, morale, sexuelle. On nous a sortis de notre place d'enfant. On a faussé notre image de l'amour. On nous a sortis de notre place. Et donc, il y a l'ensemble de notre place, aujourd'hui, eh bien, elle n'est pas trouvée, tout simplement parce que c'est en lien soit avec quelque chose que l'on a vécu dans notre enfance, petite enfance, 0-9 ans, soit, et ça c'est ma lecture, et ça regarde, je dirais, que moi et ceux qui pensent pareil, mais chacun est libre de voir les choses comme il le souhaite, et c'est en lien aussi, ça peut être en lien aussi, éventuellement, avec des héritages émotionnels qu'ont vécu notre famille avant nous. Récemment, j'avais une personne qui me dit « Dans mon travail, je suis complètement invisible par rapport à mes collègues. C'est très, très bizarre. » Et je lui ai dit « Est-ce que dans votre famille, il y a une personne pour qui être invisible, c'était rester en vie ?» Elle m'a dit « Mais oui, ma grand-mère, pendant la Première Guerre mondiale, si elle ne se cache pas pendant un mois dans la grange, elle va être trouvée, elle va mourir. » Donc l'invisibilité égale vivre. Et vous avez toutes les peines du monde à vous mettre en lumière. Il est possible qu'il y ait un lien. Il est possible qu'il y ait un lien. Et donc moi, dans ma lecture, je propose de faire un protocole qui sont tout simplement ces rituels chamaniques que j'ai mis sous la forme de protocole, il y en a 22, pour se libérer émotionnellement à la fois de nos épreuves, mais aussi des épreuves héritées de notre famille.
En plus de Trouver ma place, sont réédités en ce moment les romans thérapeutiques Les blessures du silence.
Absolument. Le testament des abeilles, Le voile des apparences, Les racines du sang et Les blessures du silence, qui sont donc quatre polars guérisseurs. On les a appelés comme ça parce que j'ai glissé deux protocoles dans chacun d'eux. Parce que, en fait, j'ai pas mal de psychologues, psychothérapeutes qui m'ont dit avec vos romans, finalement, on s'identifie au héros, mais en même temps, on n'est pas, c'est pas nous. Donc, il y a des résistances qui se lèvent. Et donc, finalement, on va pouvoir prendre conscience de certaines choses sur notre vie. Et certaines personnes ne liront jamais de livre de développement personnel. Un roman, c'est différent. Et donc, c'est mon moyen de partager quelque chose qui va pouvoir, à travers une histoire ultra documentée, parce que je me suis approchée de la police judiciaire et du 36 Quai des Orfèvres pour les écrire, de voir les choses un peu différemment sur leur propre vie.
Il paraît que le 25 mai, vous éditez un cahier de vacances.
Alors, absolument, le 25 mai, ça fait une très belle liaison avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne liront jamais de livre de développement personnel, eh bien, en partant de ce constat-là, je me suis dit, je vais proposer mon cahier d'énergie qui va être des jeux, des rituels pour prendre soin de soi, mais en s'amusant.
Vers quel public ça s'adresse ?
Tous les publics à partir de, je dirais, 14-15 ans. Pour faire la blague, je dis 15-95. C'est-à-dire que vraiment, moi je vais l'offrir à tous mes neveux, c'est comment commencer à prendre soin de soi sur une forme décomplexée, ludique, tout en s'amusant. On fait un petit trésor spécial pour apprendre à mieux dormir. On voit le lien après, hein. Mais il y a des choses, il y a un petit jeu de loi pour comprendre des choses sur des émotions cachées. Il y a un moyen de renouer avec notre créativité. Il y a quelque chose pour se purifier notre environnement et puis nos idées, nos pensées. Ce sont des petits rituels comme ça pour, en s'amusant, se sentir mieux. Et ça s'appelle Mon cahier d'énergie.
Mon cahier d'énergie, aux éditions Albin Michel ?
Absolument.
Donc à partir du 25 mai, dans toutes les bonnes librairies, oui. Même dans toutes les librairies, hein, toutes les librairies sont bonnes.
Exactement.
Et même peut-être dans les médiathèques,
oui,
éventuellement,
bien
parce
sûr.
Que je crois savoir qu'on vous trouve également dans les médiathèques.
Absolument,
aujourd'hui,
et les bibliothèques.
Ouais. Ces lieux se démocratisent au point où on y trouve des livres que l'on va connoter développement personnel, voire même des fois plus poussés.
Oui.
Donc j'invite nos auditeurs à ne pas hésiter à pousser
les
portes de ces lieux qui paraissaient poussiéreux et étonnants il y a encore quelques années et qui aujourd'hui accueillent tous nos plus beaux auteurs, tous nos plus beaux thérapeutes et permettent
et
ainsi à chacun, à tout budget, d'avoir accès à tout ça. C'est ça qui est intéressant aussi.
Et c'est ça qui est important, parce que quand on n'a pas d'argent, avoir accès à des outils, c'est essentiel.
Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Natacha, est-ce que vous avez envie de poser le mot de la fin ? Au milieu de tout ça, de ces protocoles, vous, votre vision ?
Alors, j'ai envie de dire, ne commettez pas la même erreur que moi. N'attendez pas d'être au bout du rouleau pour commencez à travailler sur vous, faites-vous aider. Moi, j'ai beaucoup de thérapeutes, des médecins, des praticiens en EFT, en EMDR, des psychologues, des psychothérapeutes qui sont formidables et qui se sont appropriés les protocoles et qui font autre chose d'ailleurs. Sollicitez des gens autour de vous, lisez, voyez, et il y a d'autres techniques. Mais en tout cas, prenez soin de vous en n'attendant pas d'être complètement cloué au sol par la douleur émotionnelle et physique pour avancer. C'est pas évident de commencer à prendre soin de soi quand ça va bien. C'est pas un réflexe. Si j'avais un conseil à donner, le mot de la fin, ce serait ça. Ce serait d'éviter d'attendre qu'on soit complètement au bout du rouleau pour chercher une solution.
Et si vous permettez, je rajouterai peut-être quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on va bien qu'on ne peut pas faire ces démarches et même des fois des soins corps.
Oui.
Des massages, des soins de réflexologie.
Bien sûr.
Des soins de shiatsu, d'acupuncture.
Complètement.
Voilà, ne serait-ce que cette approche du corps qui va permettre de se reconnecter à soi en priorité.
Une bonne petite promenade au bord du Lot. C'est pas bien ça.
Par exemple, ou dans les bois alentours, pour ceux qui connaissent les petits coins très intéressants qui nous entourent.
Voilà, ça c'est génial. Ça c'est génial. Le Lot, quel bonheur. Je suis tellement heureuse de vivre dans cette région. Je trouve ça vraiment, c'est magnifique.
C'était Daniel en compagnie de Natacha Calestrémé pour vous parler de tous les beaux protocoles que l'on peut s'attribuer, que l'on peut s'autoriser à mettre en place pour soi, consciemment, avec son cœur et la bienveillance envers soi. Avec toute la bienveillance que Natacha a voulu nous apporter au cours de cette émission, je tiens déjà à vous remercier, Natacha, de votre présence.
Merci beaucoup à vous de votre invitation.
C'est un grand plaisir. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. Et je vous dis à très vite. Au revoir.
Au revoir, merci.
Show.